Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport.
Bienvenue dans Cap Sport, on est ensemble jusqu'à 19h avec un invité, un acteur du sport de haut niveau qui parfois divise, héros du sport moderne pour certains, celui qu'on conspue volontiers pour d'autres. On reçoit ce soir un arbitre parce que c'est la semaine des arbitres organisée par plusieurs fédérations suisses de sport en salle. On sera avec Sébastien Cliva, patron des arbitres de Swiss Basketball. On va parler avec lui des relations parfois tendues sur le parquet entre les hommes en noir et les coachs ou les joueurs. On ira faire également un saut à Melbourne pour faire un point sur les Suisses à l'Open d'Australie et on parlera surtout de tennis régional avec une jurassienne sacrée, championne de Suisse junior en moins de 12 ans la semaine dernière. Elle s'appelle Jeanne Erard et elle sera là avec son entraîneur Julien Gunziger.
Cap Sport, Jérémy Pignard.
The Week of the Referee, la semaine des arbitres, et bien c'est en ce moment que ça se passe. Initiative de 4 fédérations suisses de sport en salle, Swiss Volley, Swiss Uni Hockey, la Fédé Suisse de Handball et Swiss Basketball. Un slogan choisi pour cette semaine, c'est respecter l'arbitre. L'un des sports où on discute le plus avec les arbitres, c'est peut-être le basket. C'est pour ça qu'on a invité Sébastien Cliva, le patron des arbitres de Swiss Basket. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sébastien Cliva, si ce slogan « Respect Referee » a été choisi, est-ce que c'est parce qu'il y a encore trop de problèmes, de débordements dans les relations arbitre-joueur ou arbitre-entraîneur? C'est avec eux que vous discutez le plus sur un terrain de basket.
Oui, je pense que c'est un terme qui est très important, ce terme de respecter les arbitres. On peut dire qu'au basket, on est un peu plus protégé par rapport aux violences ou par rapport aux attitudes qui sont très négatives vis-à-vis des arbitres. Mais je pense de manière globale, quand on parle d'arbitrage, quand on parle de conflits, c'est très important, encore plus au foot, qu'on parle de ça, du respect justement.
Coach-arbitre, c'est une opposition, j'ai envie de dire, presque quasi naturelle en basket parce qu'elle peut avoir des dimensions tactiques également. Les entraîneurs y viennent parfois discuter, protester, râler. Déjà, est-ce que vous leur reconnaissez le droit de le faire? Et si oui, où on place la limite entre la discussion et puis, familièrement, le pétage de plomb?
Ouais, le pétage de plomb, on essaie justement de pas y arriver justement en étant à l'écoute des coachs. Ils ont le droit de s'adresser à nous, ils ont le droit de poser des questions. Il y a des décisions qu'on prend parce qu'on a un bon angle de vision, on a un open angle comme on dit en anglais. On prend des décisions pour le bien du match afin de faire respecter les règles. Et c'est les coachs, oui, on les pousse à nous poser des questions et nous aussi du côté des arbitres. On pousse nos arbitres à répondre aux questions.
Alors justement, on est allé prendre le pouls d'un coach qui milite en Swiss Basketball League. C'est Rando Aldessarzin, qui est entraîneur de Pully-Lausanne, qui est également un ancien entraîneur du BC Boncourt, donc un club de la région. Et lui, il nous disait qu'aller littéralement gueuler sur les arbitres, non, ça n'a jamais vraiment une dimension tactique. Je vous propose de l'écouter.
Non, aller gueuler sur l'arbitre, si c'est cet antagoniste systématique, ce n'est absolument pas constructif. Il faut autant que possible rester sous contrôle, mais il peut y avoir des situations qui mettent un coach hors de soi. Quand il y a vraiment des incohérences, l'erreur, elle est humaine, autant du côté de l'arbitre que du côté du joueur, que du côté du coach. Pour s'emporter sur une première réaction sans qu'il y ait eu de précédent, même s'il y a une erreur grossière de l'arbitre, c'est de toute façon pas une solution qui va permettre au dialogue à un moment de s'instaurer ou de se réinstaurer.
Est-ce que parfois ça peut être un ressort psychologique aussi envers ces joueurs de leur montrer qu'on les soutient, on est avec eux et qu'utiliser finalement à un moment une phase d'opposition avec l'arbitre, est-ce que ça peut leur servir?
Ça peut, mais il faut que ça soit justifiable. Il ne faut pas montrer à ces joueurs, je suis de votre côté contre vents et marées, parce qu'on a autant d'opportunités, voire beaucoup plus d'opportunités d'être fâché contre ces joueurs que contre l'arbitre. Maintenant, s'il y a un sentiment d'injustice, peut-être qu'on peut aller un petit peu au-delà du rapport normal de l'explication, l'explication respectueuse, où on y met les formes, puis véritablement montrer de manière plus marquée son désaccord. Enfin, pour moi, la limite, elle est clairement dans le... Il ne peut absolument pas y avoir de côté insultant.
Sébastien Cliva, on sent aussi à travers les propos très mesurés le professeur qu'est Rando Aldessarzin, c'est-à-dire celui qui est au contact des jeunes dans les écoles, qui doit montrer l'exemple. Pour les entraîneurs qui ne sont que professionnels, qui ne côtoient que le haut niveau, j'imagine qu'on n'a pas forcément la même manière de penser. Vous vous heurtez parfois à des caractères.
Oui, bien sûr, on sort à des caractères, mais c'est aussi la manière dont on communique. Rando, il a raison dans ce qu'il dit, parce que c'est important qu'un coach il n'explose pas dès la première décision des arbitres, parce que c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message. L'arbitre, c'est un passionné, l'arbitre, il a envie que le match se déroule bien, et il ne va pas faire exprès de prendre une mauvaise décision. Donc si le coach estime qu'il y a une mauvaise décision, il peut, de manière, on va pas dire de manière cordiale, mais il y a une manière de s'exprimer qui permette que le dialogue s'ouvre.
Et ça veut dire que dans ce cas-là aussi, vous devez faire preuve de psychologie, de pédagogie, c'est-à-dire comprendre qu'un fait de jeu peut générer une certaine émotion et rendre une intervention d'un coach, on va pas dire véhémente, mais un petit peu soutenue, légitime finalement.
Totalement. Moi, je suis même d'avis qu'on doit accepter les émotions. Par exemple, dans des matchs importants comme des matchs cruciaux de Coupe Suisse ou des choses comme ça, il peut y avoir plus d'émotions. On doit comprendre ça. C'est ce qu'on enseigne aux arbitres de plus en plus, cette manière de communiquer, de comprendre. Mais il y a aussi des limites que le coach ne peut pas déborder, ou l'arbitre il peut peut-être ne pas vouloir entrer en discussion, parce que là, il n'y a pas moyen de pouvoir résoudre le problème si le coach ne veut rien écouter. C'est seulement lâcher, on va dire, sa frustration à cause d'une seule petite décision.
Alors, une des sanctions dans le panel que vous avez, c'est de distribuer à un entraîneur, par exemple, cette fameuse faute technique lorsqu'il dépasse un petit peu les bornes. On a aussi des coachs de Liga, enfin de SBL, qui nous disent les arbitres en Suisse sont parfois trop susceptibles. Dès qu'on essaye de l'ouvrir, pam, on prend une faute technique.
Oui, on l'entend beaucoup. Moi qui ai la chance d'officier toutes les semaines à l'étranger, je dirais que nous, les arbitres suisses, on est plutôt justement pas très durs avec la faute technique. On accepte beaucoup de choses qui vont au-delà de ce qu'on devrait accepter. La faute technique est un outil, c'est vrai. C'est lorsque le coach dépasse les limites, on doit le sanctionner de cette sorte. Mais souvent, il y a un avertissement avant cela. Et c'est souvent par rapport à des gestes ou par rapport à des paroles ou un too much où là, il y a une faute technique qui doit être sanctionnée.
Mais vous estimez en Suisse être suffisamment à l'écoute par rapport à ce qui peut se passer chez nos voisins à l'étranger ?
Oui, on aurait eu cette même discussion il y a 5-6 ans en arrière. J'aurais pas été aussi rapide dans ma réponse, mais je pense que maintenant, avec les actions qu'on met en place dans nos cours, aussi par rapport à la collaboration qu'on a avec les clubs, avec les joueurs, même parfois des talks qu'on a avec les entraîneurs, je pense qu'il y a une meilleure compréhension en fait des acteurs dans le basket suisse, ce qui nous permet de comprendre peut-être mieux une réaction, et aussi que le coach, il comprenne que l'arbitre, il fait pas ça exprès. Ça ouais. Aide, je pense, à éviter des situations où il y a trop de fautes techniques qui devraient être mises.
Ce que je voudrais aborder aussi, Sébastien Cliva, c'est finalement la critique une fois que le match est terminé. Après, on a parfois des coachs qui nous disent en conférence de presse après le match, je ne commenterai pas l'arbitrage parce qu'ils ont déjà eu des amendes par le passé, etc. Et du coup, ils n'ont pas envie de se livrer à un commentaire qui pourrait être négatif. Avant de vous entendre là-dessus, je vous propose juste d'écouter le sentiment de Randoald de Sarzin, justement. On lui demandait, est-ce que c'est normal qu'il y ait une certaine omerta qui se soit installée en conférence de presse après les matchs sur l'arbitrage?
Non, c'est pas normal. Non, j'estime qu'effectivement tout le monde doit être prêt à assumer des critiques. Le coach n'est pas protégé, mais vraiment au sens large du terme, tous ses choix peuvent être mis en cause, etc. Il n'y a aucune raison que l'arbitre soit protégé par rapport à ça. Après, il y a encore des bornes qu'il ne faut pas outrepasser, tout simplement. Et c'est vrai qu'on est devenu un petit peu dans le politiquement correct où il est tabou de prononcer, d'énoncer certaines critiques.
Est-ce qu'on a le droit, justement, quand on est coach, même après un match, de dire « j'estime qu'on a été désavantagé par tel coup de sifflet, que ça a été mal arbitré ?»
C'est difficile à dire. Après, c'est possible que l'erreur soit, qu'un arbitre ait fait une erreur, mais après, de remettre en fait en cause une défaite, par exemple, à cause de l'arbitre, à cause de peut-être de une, voire deux situations, c'est aussi voir où est la limite par rapport à ça. Il y a des fois, il y a des coachs qui directement dira je veux pas commenter l'arbitrage, etc. C'est par rapport à un point de vue que lui il a eu pendant le match, et peut-être que le point de vue de l'autre coach, ou peut-être le point de vue du public, ou même des experts, après avoir analysé le match, qu'on passe cette analyse à chaud, vont peut-être pas aller dans ces points-là afin d'expliquer peut-être une défaite. Mais oui, c'est possible que des gens des fois parlent de l'arbitrage, et nous on ne prendra pas ça comme des attaques si c'est fait d'une manière, on va dire, d'une manière normale et constructive. C'est ce qui est le plus important.
À travers le slogan, respecter l'arbitre, bon voilà, on sent que les arbitres prétendent au respect, ce qui est légitime. Faut-il encore qu'il soit crédible pour être respecté? Ça pose la question du niveau de l'arbitrage en Suisse. On y a presque en partie déjà répondu, mais vous disiez qu'il y a quelques années, peut-être qu'effectivement, il y avait à rougir sur le niveau de l'arbitrage en Suisse. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a eu des progrès, là encore, par rapport à nos voisins, par exemple, on est presque au niveau?
Je dirais pas que le niveau est grandement meilleur. Je pense que j'en parlais avant, la compréhension de chaque acteur du basket, elle est beaucoup meilleure, la communication elle est beaucoup meilleure et ça enlève beaucoup de conflits. Et ça, je pense, c'est un grand plus actuellement dans notre basket où on avance bien. On voit qu'on a nos arbitres qui évoluent au niveau international, ben, comme le Fribourg Olympique cette année au niveau de la Champions League. On a depuis de nombreuses années des arbitres qui évoluent et même très très bien au niveau européen. Et on a la chance de voir au niveau jeune, ben là actuellement je suis un cours d'arbitre à Vétro pour des arbitres qui veulent venir au niveau régional, mais au niveau national on a une jeune garde qui est en train d'arriver. Je pense que ça c'est un gage de bonne formation et je pense d'un très bon niveau pour le futur de l'arbitrage en Suisse.
Et la formation est importante, on aurait pu en parler, malheureusement l'heure tourne. Merci beaucoup Sébastien Cliva d'avoir été notre invité dans Cap Sport et bon week-end parce que je sais que vous êtes sur plusieurs parquets ce week-end en Suisse.
Merci beaucoup. Oui, j'aurai la chance justement de voir Randoal qui répondait très bien.
Ah ben voilà, bah c'était un hasard.
Bah. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
Cap Sport jusqu'à 19h.
Et avant de parler de tennis régional, détour par l'Open d'Australie, quasiment la fin de la première semaine. Timea Bachinski et Roger Federer sont encore en lice dans le clan suisse. Ils étaient 7 au départ, mais on a vu de belles choses. Et c'est aussi l'avis de Bernardin Allemann. Il est envoyé spécial de la RTS à Melbourne. En ce moment, c'est la nuit là-bas. Il est au dodo, mais on l'a appelé ce midi pour tirer le bilan de cette bonne première semaine pour les Suisses. Bernardin Allemann.
Oui, c'est une bonne première semaine. Vous avez raison, avec une petite exception, parce que c'est vrai que si Belinda Bencic, qui s'est fait éliminer, a quand même gardé le sourire parce que franchement, c'était une montagne en face d'elle. La petite déception, la petite frustration, c'est quand même Stan Wawrinka qui n'est pas passé loin de renverser Milos Raonic. Mais si on enlève cela, eh bien Roger Federer est toujours là, Tina Bacinski est toujours là. Rory Laxonen a enfin gagné un match en Grand Chelem et il a eu un gros match ensuite contre Alex de Minaur, l'Australien. Donc oui, franchement, globalement, c'est une belle semaine côté suisse, on peut le dire. Oui.
Justement, Bernardin, on disait souvent dernièrement qu'après Federer et Bachinski, on n'allait plus voir grand-chose côté suisse. Avec ce qu'a montré Bencic, ce dont semble être capable Laxonen, qui a quasiment fait le meilleur match de sa carrière contre de Minaur, même s'il perd, est-ce que ça suffit pour légitimement espérer un avenir peut-être un petit peu moins morose que celui qu'on craignait?
Bon, chez les hommes, soyons honnêtes, ça va être très difficile. Rory Laxonen a quand même 25, 26 ans. Voilà, il faudra voir si ce match peut être un déclic pour lui, mais il fait un peu le yo-yo quand même entre la centième et la deuxième place mondiale. Concernant Belinda Bencic, elle semble vraiment revenir. Elle a eu pas mal de problèmes physiques. Elle a aussi beaucoup, peut-être même trop joué. Mais là, elle semble avoir trouvé de nouveau un très bon rythme. Elle a joué la Hopman Cup, qu'elle a remporté avec Federer. Elle a une très belle demi-finale à Hobart. Et puis là, elle fait deux bons matchs. Donc Belinda Bencic, on le sait, c'est quand même l'avenir du tennis féminin suisse. Tima Bacinski aussi, mais elle est déjà un peu plus âgée. C'est pour ça que je parle vraiment de Belinda Bencic comme l'avenir. Mais
21 ans seulement.
Elle, oui, on espère vraiment quelque chose de bien. Elle a vraiment grandi, elle a pris en maturité. Belinda Bencic, elle a aussi clarifié, et c'était très important, les relations avec son père. Et de nouveau son entraîneur, mais là, elle a eu un mot très drôle cette semaine, la Sacaloise, elle a dit « J'ai grandi, mais mon père aussi ». Ça montre quand même que les relations entre les deux sont bonnes, et c'est quand même la condition sine qua non pour qu'elle réussisse à remonter de nouveau au classement.
Anecdote sympa en effet. Si, vu qu'on est du côté des femmes, Bachinski, ses perspectives face à Muguruza, ce sera un match demain à 9h heure suisse. C'est une cliente en face, hein, clairement, même si elle a déjà eu Kasatkina au premier tour.
Oui, c'est une cliente, voilà, vainqueur à Wimbledon, vainqueur à Roland-Garros, ancien numéro 1 mondial. Franchement, ça va être compliqué, mais ce n'est plus non plus la Garbinier Muguruza de 2016-2017 qui était l'une des meilleures joueuses. Elle a un peu rétrogradé, elle a aussi des soucis physiques. Ça va être compliqué, mais franchement, c'est beaucoup plus ouvert, par exemple, qu'aujourd'hui le match Bencic-Kvitova, où là, on savait que ça allait être très, très compliqué, voire impossible.
Et dimanche, il y aura Federer. Il a impressionné cette nuit contre Taylor Fritz. Il va passer vraiment son premier gros test du tournoi, par contre, contre Tsitsipas, qui incarne vraiment la jeunesse montante du tennis moderne.
Oui, c'est vrai que c'est un gros test. Même si au deuxième tour contre Evans, qui a vraiment joué de manière exceptionnelle, c'est déjà un gros test. Il a vraiment bien réussi parce que franchement, il fallait le gagner, surtout le gagner en 3-7. Là, c'est vrai, des raisons, c'est la nouvelle génération. Federer a battu Tsitsipas il y a deux semaines à la Hopman Cup, assez nettement, mais ce Federer là est vraiment en forme et ce sera pas évident. Ce sera de nouveau un autre style et surtout, je pense que là, Federer pourra de nouveau plus monter au filet. On aura, je pense, un jeu un peu plus intéressant aussi. Mais voilà, en tout cas, ce Federer-là a les moyens de passer ce qui passe. Mais rien n'est gagné d'avance, absolument, avant ce huitième de finale.
Un petit mot sur l'ambiance. On a quand même l'impression que ce public de Melbourne a découvert une coqueluche avec Dominor qui vient de s'incliner en 3-7 contre Rafael Nadal. Mais quelle ambiance!
Oui, Dominor, ils aiment ça, ils aiment le foot, ils aiment le tennis, ils aiment le footy, ils aiment le cricket, ils aiment tous les sports, c'est vraiment un peuple de sportifs, tout en étant très fair-play hein, par rapport à d'autres nations. Et c'est vrai que ce Dominor est extrêmement intéressant, il a gagné son premier tournoi à 19 ans, il aura 20 ans d'ici 2-3 semaines. Maintenant, voilà, c'est aussi un peu trop tôt pour savoir jusqu'à enfin, vraiment un futur grand. Encore une fois, il faut laisser aussi passer les années, voir comment il va digérer tout ça. Voilà, contre Nadal, on a vu qu'il l'a accroché chaque fois en début de tête et puis après, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, il a encore un voire deux paliers à franchir. Mmh. Mais c'est vrai que le public l'a beaucoup apprécié. Vous savez, ce public australien, souvent, il a des jeunes qui arrivent. Il y a eu Tomic, il y a Kokkinakis, Kyrgios. Et puis finalement, à 21, 22 ans, ils disparaissent, ils sont blessés ou alors ils font un peu n'importe quoi. Voyez Tomic. Il est parti un peu en vrille, même s'il est toujours sur le circuit. Donc finalement, là, ils espèrent vraiment avoir le nouveau Leighton Hewitt, nouveau Philippe Poussis, nouveau Pat Cash qui arrive. Et le public australien mériterait, c'est vrai, d'avoir sa vraie star.
Et il y aura encore une grosse ambiance pour Roger Federer face à Tsitsipas dimanche parce qu'il y a une grosse communauté grecque qui habite en Australie. Donc ça promet vraiment un cours en feu. Et pour suivre Baczynski face à Muguruza, ce sera demain matin à partir de 9h heure suisse.
Cap Sport.
Et on continue de parler de tennis, mais on revient cette fois chez nous, dans l'Arc Jurassien et même dans le Jura. Et oui, parce que le Jura a une championne de Suisse de tennis junior, 15 ans que ce n'était pas arrivé. C'est Jeanne Erard qui a été sacrée la semaine dernière chez les moins de 12 ans. Salut Jeanne.
Bonjour.
Comment ça va? Pas trop impressionné par la radio? Ça va bien?
Non, ça va.
Ça va, 12 ans seulement, donc il faut être évidemment clément. Et tu es venu avec ton entraîneur, Julien Gunziger. Bonsoir.
Bonsoir.
Jeanne, déjà, est-ce que cette semaine, elle a été normale ou alors depuis ton titre de championne de Suisse, est-ce que ta vie, elle a complètement changé? Est-ce que c'est devenu complètement fou?
Les autres, ils m'ont bien félicité, mais après, ça changeait pas grand-chose.
Ça change pas grand-chose. À l'école, on t'a embêté un peu avec ça?
Ils m'ont félicité aussi, mais sinon, ça va.
Et alors, est-ce que tu arrives à réaliser ce que tu as fait, que tu es la première jurassienne depuis 15 ans, t'imagines, c'est plus âgé que toi, 15 ans, à avoir décroché un tel titre?
Je m'en rends pas trop compte, non, mais après, voilà.
Et c'est Martina Hingis, en personne, qui t'a remis la médaille, c'est ça? Quelle impression tu gardes d'avoir vu une grande championne comme elle?
Ben, ça m'a touché, et puis, voilà.
Julien Gunziger, cette insouciance à cet âge-là, c'est aussi un petit peu le lot des enfants de cet âge-là dans le sport de haut niveau.
Oui, tout à fait. Ils n'ont pas forcément encore le recul. Vous avez parlé de Martina. Pour Jeanne, Martina, ben c'est clair, c'est une grande championne, mais elle n'a pas énormément vu en activité. Il y a un recul inévitablement qui manque quand on réalise des performances de cet ordre-là. Après, il faut aussi ramener... C'est une très, très bonne performance. Mais en même temps, ce n'est pas encore un titre de grand chelem ou de cet ordre-là. Hein. Il faut aussi toujours, c'est très important dans la formation d'un joueur de tennis, de toujours avoir bien la tête sur les épaules et puis de continuer son petit bonhomme de chemin pour réaliser ses rêves si on en a.
Ben justement, on va en parler juste après, peut-être avant. Jeanne, c'est qui ta référence dans le tennis, ta joueuse préférée?
Simona Halep,
l'actuel numéro 1 mondial, tout simplement. Et est-ce que tu sais, avant toi, qui était le Jurassien qui a été le dernier qui a été sacré champion de Suisse en tennis?
Vincent
Schaffner, ouais, c'était en 2003-2004, presque comme toi, il avait 11 ans. Et on lui a passé un petit coup de téléphone aujourd'hui pour le demander ce que ça lui fait d'avoir enfin un successeur, en l'occurrence toi. Je te propose de l'écouter.
C'était assez marrant de voir, ça fait quand même 15 ans qu'il n'y avait pas de Jurassien qui avait réussi à gagner le championnat suisse. Et ouais, ça m'a fait bizarre et puis je me suis un peu replongé dans mon tournoi. C'était assez particulier comme émotion. C'est clairement le meilleur souvenir tennistique que j'ai. Franchement, il n'y a pas de, de tournois ou de matchs qui ont été plus mémorables que ceux que j'ai gagnés à l'occasion de ces championnats suisses.
Est-ce que derrière, ça peut être justement difficile à gérer quand on est si jeune, on a 12 ans, si justement vous aviez quelque chose à lui conseiller par rapport à votre expérience à cette jeune demoiselle ?
Pour moi, il y a eu un petit problème, c'est que j'ai gagné à 11 ans ce tournoi et en fait, après, j'ai eu des moins bons résultats parce que les autres ont commencé à se développer physiquement, à grandir, à entrer vraiment dans l'adolescence, alors que moi, j'avais tendance à stagner et il y avait un écart physique qui augmentait au fur et à mesure des années et finalement, j'arrivais plus trop à être dans les tout meilleurs vers 12, 13 ans. Si je peux donner un conseil, c'est que voilà, les résultats, on va dire, de 13 à 16 ans sont assez biaisés par cet aspect physique et voilà qu'il y a une différence entre certains sont déjà bien développés alors que d'autres finalement sont encore des enfants. Donc les résultats à cette période-là ne veulent pas forcément dire grand-chose.
Julien Guntigre, vous êtes d'accord que ces résultats ne veulent pas dire grand-chose parce que le physique est un paramètre très fluctuant, notamment à cet âge-là ?
Alors, bon, effectivement, la dimension physique sera déterminante dans les années à venir pour Jeanne. Après, ce qu'elle a réalisé, c'est quand même une étape très importante. C'est quelque chose qui n'est quand même pas accessible à tout le monde. Donc, de l'avoir accompli, c'est quand même un grand pas qui a été franchi. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il faudra effectivement voir la maturation physique. Chez les filles, ça va aussi un petit peu plus vite que chez les garçons. Et puis, côté de Jeanne, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire.
Jeanne, est-ce que tu sais, toi, déjà, ce que tu as envie de faire plus tard ? Est-ce que tu as envie de faire du tennis ta vie, être joueuse professionnelle ? Ou alors, pour toi, aujourd'hui, c'est juste un loisir ? Tu aimes jouer au tennis, mais tu ne penses pas encore beaucoup plus loin ?
J'aimerais bien gagner ma vie avec. Donc, ouais, professionnel, ce serait cool.
Et je crois que le dernier professionnel dans le Jura, ça devait être Alexandre Strombini, il me semble.
Oui, exactement.
Tu avais dû être dans les 200 meilleurs joueurs mondiaux.
Oui, il y a Mathieu Amverde aussi qui a fait une expérience dans le professionnalisme. Mais Alexandre Strombini était quand même arrivé nettement plus haut.
Pour illustrer ces graines de champion, Julien Guntigre, qu'est-ce qui est le plus important maintenant pour Jeanne, justement, pour se donner le maximum de chance ? C'est l'entourage ? C'est les parents ? C'est savoir garder les pieds sur terre ?
Alors, ça, ce que vous avez dit là, ça c'est fondamental déjà, garder les pieds sur terre, et puis avoir le sens vraiment de l'effort, encore développer ce sens de l'effort, que Jeanne est dure au travail, elle est dure à la tâche, mais il y a encore des progrès à accomplir dans ce sens-là, le sens de l'effort, et puis comme vous dites, l'encadrement, avoir les bons partenaires, avoir un cadre de formation qui permet vraiment de s'épanouir.
Un petit mot sur le tennis régional, parce que je regarde le tableau des demi-finales des U12 et U18 garçons-filles confondus. Jeanne Erard, c'est la seule issue de l'arc jurassien dans le tableau des demi-finales. Il y a même, je crois, que 3 romans. Est-ce qu'il faut en déduire, Julien Guntigre, que notre région elle a un peu de mal à fournir actuellement dans cette génération-là des joueurs et joueuses de haut niveau ?
Effectivement, pour l'instant, on va dire les principaux pôles de formation sont plutôt côté alémanique. Encore que dans certaines catégories, chez les garçons 12, 14 ans, il y a beaucoup de bons joueurs prometteurs. Mais il y a quand même une tendance un petit peu plus du côté alémanique, hein. Ça c'est vrai.
Jeanne, dernière question, c'est quoi les prochains grands tournois pour toi, les prochaines échéances ?
Je vais partir en Autriche la semaine prochaine.
D'accord. Pas pour faire du ski, pour faire du tennis.
Ouais.
Et c'est pour te préparer à quelque chose ? C'est pour un tournoi ?
C'est les championnats européens.
D'accord, très bien. Eh bien, écoute, bonne chance pour les championnats européens. On espère que tu vas nous ramener un titre dans le Jura. Ça serait aussi magnifique. Merci beaucoup, Jeanne, d'être venu. Merci beaucoup, Julien Guntigre, de l'avoir accompagné. Merci également à Claude d'avoir réalisé l'émission. Et à la prochaine. Ciao, ciao.
Cap Sport.